L'invité du grand entretien aujourd'hui est la ministre des Solidarités et de la Santé. Léa Salamé, vous intervenez dans une dizaine de minutes. Vos questions, auditeurs au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. Agnès Buzyn, bonjour.
Bonjour Nicolas Demorand.
Merci d'être au micro d'Inter. Suite à la mort à 22 ans de Naomi Musenga, dont l'appel n'avait pas été pris au sérieux par le SAMU, la réflexion s'engage sur une réforme ou une refonte du traitement de ces urgences. Le député La République En Marche, Thomas Mesnier, vous a remis un rapport mardi. Commençons par le commencement, Agnès Buzyn, la porte d'entrée dans le système. Il propose de supprimer les différents numéros d'urgence au profit du 15. Allez-vous le faire ?
Alors, d'abord, avant que cet accident grave survienne, nous avions déjà lancé une réflexion avec Gérard Collomb sur l'articulation des numéros d'urgence entre eux, entre les pompiers et le SAMU. Et nous avions demandé une mission qui doit nous rendre son rapport en juin, qui compare les différents systèmes européens avec des numéros uniques ou des numéros différents. Et donc, la réflexion sur l'entrée dans la grande urgence était déjà lancée depuis le mois de janvier.
Mais elle a accéléré
L'affaire, évidemment, de Madame Musenga a considérablement fait émerger ce débat dans le grand public, et tant mieux, parce que ça a permis de révéler des dysfonctionnements, et ça va me permettre aussi de remettre de l'ordre dans le contrôle qualité du traitement des appels au SAMU. Et le rapport de Thomas Mesnier n'était pas tant sur les numéros d'urgence, mais sur la régulation des soins non programmés. C'est-à-dire des soins quand on cherche à joindre un médecin et qu'on n'a pas de rendez-vous.
Et qui en appelle ? C'est bien la question. Quel numéro ?
Alors, en fait, l'objet de son rapport, c'était comment désengorger les urgences, parce que les gens vont aux urgences trop facilement. Ça n'était pas vraiment un rapport sur le SAMU, mais évidemment, il va falloir articuler les deux réflexions, celle sur les numéros de grande urgence et celle sur la régulation des soins non programmés, parce que les Français ont du mal à accéder à un médecin en libéral aujourd'hui.
Quelle est votre position sur la question des numéros d'urgence ? Parce que ça semble couler de source. Un numéro, c'est plus simple que X numéros.
Alors, c'est plus simple à mémoriser, mais il y a un désavantage, c'est que vous avez à ce moment-là plusieurs étapes pour joindre le médecin. Vous avez d'abord un régulateur qui vous pose la question de savoir si c'est un incendie ou si c'est un problème médical. Vous donnez déjà un certain nombre d'informations à cette première personne. Ensuite, elle est orientée vers un opérateur s'occupe de la santé et qui, elle-même, va passer l'appel à un médecin. Et donc, ces trois étapes font perdre de l'information et du temps. Donc, c'est pour ça que nous avons voulu comparer les systèmes européens, parce qu'il faut impérativement prendre la bonne décision, ne pas aller trop vite en besogne. Il y a des avantages et il y a des inconvénients dans tous les systèmes.
Est-ce que des pharmaciens, des infirmiers pourraient prendre une partie de la charge ?
Alors, aujourd'hui, il y a certainement une partie des interrogations des Français qui font qu'ils vont aux urgences pour des problèmes très simples, comme un renouvellement d'ordonnance ou comme un conseil pour une entorse. Et ces pathologies-là, elles n'ont pas besoin d'être traitées par un médecin urgentiste dans un service 24 heures sur 24. Et donc, il y a une question d'organisation des soins en amont. Comment on organise les soins de ville pour que les Français qui ont besoin de réponses concrètes à des problèmes qui ne sont pas vitaux, puissent quand même trouver la réponse en ville sans aller aux urgences.
Et ça, il faudrait l'organiser. Comment ça coûte très cher de rebasculer les personnes qui vont aux urgences alors qu'elles n'en ont pas besoin sur le circuit commun.
Alors c'est tout l'objet du rapport de Thomas Mesnier, c'est comment faire en sorte qu'on organise dans le secteur de la ville des systèmes qui répondent aux besoins des Français. Et c'est aussi l'enjeu de la transformation du système de santé qui va être annoncé par le président de la République au mois de juin, puisque nous y travaillons. C'est un plan qui va comprendre une réforme de l'hôpital, mais également une réforme ou une restructuration des soins de ville pour répondre aujourd'hui aux maladies chroniques, par exemple.
Parce que parfois, Agnès Buzyn, on se retrouve aux urgences parce qu'il est très difficile d'avoir le rendez-vous à la dernière seconde. Peut-être pas urgent, mais en tout cas dans la journée ou dans l'heure qui suit ou dans les deux heures avec un médecin généraliste. Donc c'est faute de mieux.
Exactement.
Aujourd'hui, alors comment les Français... on règle ce problème-là ?
Non, mais aujourd'hui, ça veut dire une organisation de la réponse aux soins non programmés. C'est-à-dire que les Français puissent trouver un numéro à appeler, qui leur permettent de s'orienter sans aller forcément aux urgences. Et c'est de ça dont parle le rapport du député Thomas Mesnier. Et donc la question, c'est comment on régule et comment on donne l'information, la bonne information aux Français, parce qu'en réalité, ils ne savent pas se repérer dans notre système. Ils connaissent leur médecin traitant, si celui-ci ne répond pas ou est surchargé, à ce moment-là, ils vont aux urgences. Or, il y a d'autres médecins, il y a des maisons de santé, il y a éventuellement des centres de santé, il y a d'autres professionnels qui peuvent prendre en charge, par exemple des pharmaciens sur certains conseils, et donc nous devons organiser cela pour simplifier la vie des Français au quotidien.
On s'aperçoit, Madame la Ministre, que le cas de Naomi n'est pas le seul. De combien d'affaires potentiellement comparables avez-vous connaissance aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, me remontent effectivement des agences régionales de santé des signalements beaucoup plus fréquents qu'avant. Donc, il y a eu une prise de conscience, je pense, dans les services des SAMU, de la nécessité de faire remonter les dysfonctionnements, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pour ça que j'ai demandé que les médecins urgentistes me donnent des procédures et mettent en place un contrôle qualité, car ces affaires ne peuvent pas rester dans un tiroir méconnu. Il faut que les familles soient prévenues, il faut que les familles soient informées, il faut que, évidemment, les hôpitaux prennent leurs responsabilités, il faut surtout qu'on fasse en sorte que ça ne survienne plus, ou en tous les cas, de moins en moins.
Combien d'affaires, donc ?
Alors, aujourd'hui, j'ai connaissance d'une dizaine d'affaires, mais je pense que c'est
sous-estimé encore.
J'ai demandé aux différentes agences régionales de santé de me faire remonter ce qu'elles avaient à leur connaissance. Et puis, il y a un site qui existe à la Haute Autorité de Santé qui répertorie tous les dysfonctionnements graves dans les hôpitaux. Donc, je vais demander à ce que, sur ce registre, on me fasse remonter tout ce qui concerne les SAMU et les urgences.
Peut-on être certain que ces affaires ne se reproduiront plus si on forme les gens différemment, si on organise les choses autrement? Est-ce qu'on peut viser le zéro défaut avec des défauts qui peuvent avoir des conséquences dramatiques?
Zéro défaut dans un système de soins où l'erreur est humaine, ce serait m'avancer. Les SAMU aujourd'hui traitent 25 millions d'appels par an. 25 millions d'appels, 800 000 sorties. On est sur des chiffres considérables. Mon objectif, c'est qu'il y en ait de moins en moins, c'est-à-dire que les SAMU fassent des retours d'expérience collectifs sur les dysfonctionnements dont ils ont connaissance. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on gère les risques dans l'aviation et c'est comme ça qu'on doit gérer les risques en médecine. Donc il y a une culture du risque que je dois implémenter dans les hôpitaux et dans les SAMU et je vais y travailler avec eux pour réduire considérablement ces risques, mais promettre zéro erreur médicale dans les hôpitaux en France.
Au moins dans les systèmes d'urgence, c'était ça le.
Au moins dans quand les systèmes d'urgence, et je dirais, je prône pour le principe de précaution, c'est-à-dire que quand il y a un doute, le doute bénéficie aux citoyens.
Le grand débat de bioéthique, Agnès Buzyn, s'est terminé la semaine dernière. Il y a été question notamment de l'euthanasie, mais de mille autres sujets. Seriez-vous, les débats ont été vifs, favorables à une évolution de la loi française sur l'euthanasie ?
Alors, d'abord, la question de l'euthanasie ne rentre pas dans les lois bioéthique. Ça n'est pas un sujet qui est lié au progrès médical. C'est un sujet de société. Donc, si un jour nous sommes amenés à traiter la
question
fin de vie,
d'éthique,
ça ne sera, oui, c'est de l'éthique, mais ça n'est pas de la bioéthique. Donc, ça ne rentrera pas dans la loi de bioéthique qui est en train d'être révisée, où nous avons suffisamment de questions à régler autour des progrès médicaux, de la génétique, des embryons, de la procréation, pour ne pas rajouter en plus la fin de vie, alors que ça n'est pas lié au progrès de la science. C'est vraiment un débat sociétal. Donc, je souhaite qu'on sépare les deux sujets aujourd'hui et qu'on se concentre sur l'obligation que nous avons de réviser la loi de bioéthique. C'est une obligation dans la loi. Donc, nous aurons une loi de révision qui est prévue en 2019 avec énormément de sujets. L'intelligence artificielle, le traitement des données de santé, la génétique humaine, la procréation médicale. Nous avons de quoi faire.
Le professeur Joyeux, l'un des papes des anti-vaccins, fait appel aujourd'hui de sa radiation de l'ordre des médecins. Vous êtes Agnès Buzyn, médecin et ministre de la Santé. Est-ce que la radiation vous semble justifiée quand on théorise ainsi le refus des vaccins.
Bon, je n'ai pas évidemment à m'exprimer sur une décision du Conseil de l'Ordre des médecins qui a évidemment à faire la déontologie au sein de la profession médicale. Moi, je me bats contre les fausses informations parce que je trouve qu'aujourd'hui, elles ont envahi les réseaux sociaux, elles créent des doutes incroyables chez nos concitoyens. Il va y avoir une loi sur les fake news en politique. Je trouve que vraiment, c'est aujourd'hui un enjeu majeur de citoyenneté et de responsabilité collective que de faire réapparaître la rationalité et la vérité dans le débat public et donc dans les réseaux sociaux. Monsieur Joyeux a participé à désinformer les Français. Et je crois qu'il est aujourd'hui sanctionné par l'Ordre des médecins pour cela. C'est de la responsabilité de l'Ordre. Moi, ma responsabilité, c'est de vérifier que les Français ont les bonnes informations.
Il va y avoir une loi sur la manipulation de l'information. Je vous avais déjà posé cette question, mais vous y revenez. Est-ce que les questions de santé seront dans cette loi qui était discutée hier?
Alors, à ma connaissance, pas, mais le débat pourra avoir lieu avec les parlementaires. Et donc, mais aujourd'hui, mon ministère et ma responsabilité, c'est de réapparaître comme la garante de l'information médicale et scientifique auprès des Français, parce que les pouvoirs publics ont perdu de la crédibilité dans l'espace public. Et je crois que c'est aujourd'hui un enjeu de citoyenneté.
L'État cherche de l'argent partout. Allez-vous dérembourser l'homéopathie?
L'homéopathie, aujourd'hui...
Ça continue à être bénéfique sans être nocif, avez-vous dit, ça continuera à être remboursé. Le service médical rendu, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est faible. Pourquoi continuer à rembourser alors qu'on cherche de l'argent partout?
Aujourd'hui, il y aura une question que nous allons aborder sur l'utilité des médicaments, car nous remboursons notamment à des taux très très faibles des médicaments extrêmement peu efficaces, voire inefficaces. Donc des taux de 15%. Donc, de toute façon, le débat va avoir lieu sur qu'est-ce que nous avons envie de payer.
Donc le débat est ouvert sur le remboursement, le non-remboursement de l'homéopathie.
Le débat aujourd'hui, il est ouvert globalement sur l'utilité des médicaments. Où est-ce qu'on met l'argent public? Où est-ce qu'on rend service aux Français? Et c'est un débat que nous ouvrirons cet été dans le cadre des...
Et l'homéopathie est donc dedans, qu'on soit bien clair.
Alors aujourd'hui, elle devrait en fait faire l'objet d'une évaluation. Le problème de l'homéopathie, c'est qu'elle n'a jamais été évaluée comme un médicament. On a décidé de rembourser l'homéopathie sans aucune évaluation scientifique. Et donc, peut-être simplement, l'homéopathie pourrait-elle rentrer dans le droit commun d'être évaluée, et si elle est utile, eh bien elle restera remboursée, et si elle est inutile...
Parce que ça fait cher le placebo, hein.
Voilà.
Agnès Buzyn est l'invité de France Inter. Mille excuses, il est 8h33. Léa Salamé.
Madame la ministre, est-ce que vous nous confirmez que le rapport du comité d'éthique prend du retard? Vous ne l'aurez pas en juin, mais en septembre?
Alors, la date n'est pas encore calée. Il est vraisemblable que le rapport ne sera pas totalement prêt fin juin, début juillet, comme c'était prévu. Et donc, la question est peut-être de le reporter à la fin de l'été. Nous attendons la confirmation par le Comité consultatif national d'éthique. C'est à eux de nous dire quelle est la date qui leur semble la plus appropriée.
Bien.
C'est compliqué parce qu'il y a énormément de sujets.
Effectivement. Une fois que ce rapport vous sera remis, après le débat qui a eu lieu, vous allez donc proposer un projet de loi avec un certain nombre de points. Est-ce qu'on peut imaginer que ce projet de loi ne contienne pas l'extension de la PMA à toutes les femmes? Est-ce que c'est imaginable?
Aujourd'hui, j'attends le rapport. Je l'ai dit, je ne souhaite pas prendre de position personnelle sur aucun des sujets de bioéthique tant que le rapport du Conseil consultatif national d'éthique n'a pas été remis au gouvernement. C'est comme ça qu'était prévue la révision des lois de bioéthique. Ce n'est pas pour se défausser, c'est pour ne pas polluer le débat. Et pour laisser justement le Conseil consultatif national d'éthique rédiger en toute sérénité. Si je commence à prendre une position en disant « je veux que ceci y soit ou cela », tout de suite, les groupes
c'est
de
une
pression
question...
vont monter.
Oui, j'entends bien, mais c'est une question politique, c'est une question qui a été abordée par Emmanuel Macron pendant la campagne.
Absolument.
C'était écrit sur son site de campagne, nous sommes favorables à l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Est-ce que c'est possible que ce projet de loi, à la fin, si jamais le rapport dit non, est-ce que vous passeriez outre ou pas?
Alors, il n'y a pas que ce rapport que nous attendons, nous attendons trois rapports. Le rapport du Conseil d'éthique, le rapport du Conseil d'État sur les aspects juridiques et le rapport des parlementaires, de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Et c'est au vu de ces trois rapports que nous prendrons des décisions. C'était dans le programme présidentiel. Le président était favorable à ouvrir ce débat. Donc, n'y a pas de raison qu'on revienne en arrière sur l'ouverture d'un débat, sauf si effectivement les trois rapports étaient violemment contre, et ces trois rapports font vraiment état des débats citoyens qui ont eu lieu. Donc voilà, moi je ne souhaite pas m'engager en aucune façon sur aucune des mesures, non pas parce que je n'ai pas le courage de le faire, que je n'ai pas de conviction, j'ai des convictions personnelles, mais parce que je veux laisser le Conseil d'éthique travailler en toute sérénité.
C'est une question qui vous concerne directement en tant que ministre de la Santé publique, les morts sur les routes. Si je vous demande ce que vous pensez des 80 km/h sur les routes, Madame Buzyn, est-ce que vous me répondez comme votre collègue Gérard Collomb, joker ?
Alors moi, je pense que c'est une bonne mesure. Nous avons aujourd'hui une augmentation du nombre de morts sur les routes. Nous avons un nombre de blessés graves considérable, 70 000. Il faut aller dans ces hôpitaux. Il faut aller voir ce que représentent ces vies brisées, ces enfants tétraplégiques qui restent 2 ans, 3 ans hospitalisés, qui ne trouvent pas de logement parce qu'ils sont tellement abîmés par la vie, les familles. À un moment, il faut que l'État prenne ses responsabilités et assume des décisions impopulaires. Vous n'étiez pas née, Madame Salamé, mais je l'étais lorsque la ceinture est devenue obligatoire. Vous n'imaginez pas ce qu'on a entendu. Objectivement, on a tout entendu. À un moment, malheureusement, il faut protéger les citoyens contre eux-mêmes. Je pense que cette mesure, normalement...
Elle est impopulaire aussi chez beaucoup de ministres du gouvernement. J'ai cité Gérard Collomb, je pourrais en citer d'autres.
Parce que les ministres du gouvernement sont comme tous les citoyens. Ils peuvent avoir parfois leurs opinions. Moi, je crois que c'est une excellente mesure si elle sauve les 400 vies comme c'est prévu, parce que les études montrent qu'on devrait économiser 400 vies et des milliers de personnes handicapées. Eh bien, je pense que c'est une bonne mesure dont on pourra être fier dans 2 ans de l'avoir prise.
Bruno Le Maire a laissé entendre dimanche que le gouvernement pourrait baisser les aides sociales si jamais le chômage venait à baisser. On n'y est pas, puisque le chômage a augmenté au premier trimestre 2018. Mais si jamais il venait à baisser, il faudrait baisser les aides sociales. Vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais après avoir discuté de la question avec Bruno Le Maire, il pensait aux aides à l'emploi et aux entreprises. Donc, je pense que c'est sa langue à fourcher. Les aides sociales, évidemment, sont aujourd'hui totalement nécessaire pour nos concitoyens. Ça ne fait pas l'objet, évidemment, de mesures...
C'était maladroit de la part de Bruno Le Maire ?
Non, c'est pas maladroit. Il a voulu dire, et il me l'a redit hier, il a voulu dire les aides à l'emploi parce qu'on ne peut pas subventionner à la fois l'emploi alors qu'on subventionne déjà la reprise de l'emploi et la baisse du chômage.
Madame la ministre, dernière question. En général, on pose la question aux hommes de pouvoir, mais vous, c'est en sens inverse. Vous êtes ministre de la Santé. Votre mari, Yves Lévy, est président de l'INSERM, le plus puissant institut de recherche en France. Son mandat arrive à échéance le 12 juin prochain. Doit-il briguer un nouveau mandat ou est-ce que vous y voyez un possible conflit d'intérêts?
Vous lui poserez la question. Moi, je suis déportée de cette question par aujourd'hui un décret. Et donc, la question du renouvellement de mon mari à la tête de cette institution dépend totalement de Matignon.
La parole aux auditeurs de France Inter, 01 45 24 7000. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci de me recevoir, merci de rythmer mes journées parce que je suis en invalidité. J'ai développé un cancer du rein en 2004 et j'ai développé des douleurs neuropathiques invalidantes. J'ai été hospitalisé des années dans des centres antidouleurs. Et je voulais interroger, bonjour Madame la Ministre, sur l'opportunité de développer le cannabis médical qui fonctionne très bien dans beaucoup de pays et qui m'aurait évité par exemple de faire un sevrage de morphine comme je viens de faire puisque je me faisais jusqu'à 20 piqûres par jour.
Merci Christophe pour cette question. Agnès Buzyn vous répond.
C'est une excellente question, monsieur, et c'est effectivement peut-être un retard que la France a pris quant à la recherche et au développement du cannabis médical. D'autres pays l'ont fait. Donc aujourd'hui, j'ai demandé aux différentes institutions qui évaluent les médicaments de me faire remonter l'état des connaissances sur le sujet, parce qu'il n'y a aucune raison d'exclure, sous prétexte que c'est du cannabis, une molécule qui peut être intéressante pour le traitement de certaines douleurs très très invalidantes. Donc je pense que nous avons du retard, vous avez raison monsieur. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire à quelle vitesse nous allons le développer, mais en tous les cas, j'ouvre ce débat avec les institutions responsables de ce développement.
Donc ça pourrait arriver en France ?
Ça pourrait.
Pourquoi rembourser l'homéopathie, vous demande Charles, sur l'application France Inter, et non pas les huiles essentielles ?
Écoutez, moi j'ai vraiment je dirais, une règle très simple. Aujourd'hui, il faut que ce que nous remboursons avec la sécurité sociale, qui est notre bien commun, qui est notre argent à tous, soit des choses validées et utiles. Et donc, ça doit passer par l'évaluation des instances réglementaires. Donc, il y a des institutions qui évaluent avec des experts. Soit c'est
Charles
utile
dit que
et c'est remboursé.
Le traitement phytothérapique a des preuves établies.
Eh bien,
je livre ça à votre sagacité.
Eh bien, il faut que ces produits se présentent devant les instances comme n'importe quel produit de santé aujourd'hui, soit évalué, et si c'est bon pour la santé, ça sera remboursé.
Quel est votre avis, vous, quel est votre avis de médecin, vous, sur l'homéopathie? C'est utile ou pas? Vous l'utilisez ou pas? Vous l'utilisez avec vos enfants ou pas?
Alors, moi, je n'utilise pas du tout de médicaments, et très très peu de médicaments. J'essaye d'en utiliser le moins possible. Bon, voilà.
Et donc il y a quoi dans votre armoire à pharmacie?
Il n'y a pas d'homéopathie, ça c'est clair.
Ni de phytothérapie, des huiles essentielles.
Cela dit, faut bien être conscient que les plantes aujourd'hui, parce qu'on parle de phytothérapie, ce sont des plantes. Les plantes, les feuilles des plantes, les écorces des plantes, elles ont donné lieu à des médicaments.
Tout à l'heure.
Mais à des médicaments anticancéreux très puissants. Les chimiothérapies aujourd'hui du cancer du sein, elles proviennent d'écorces d'ifs. Donc, faut pas imaginer que les plantes, c'est anodin.
Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup de prendre ma question, mon témoignage. Bonjour, Madame la Ministre.
Bonjour, monsieur.
Je voudrais apporter le témoignage de ma compagne qui est jeune médecin. Ça fait 2 ans et demi qu'elle exerce à l'hôpital public. Et donc, après 12 ans d'études et ses 2 ans et demi d'exercice, elle a été arrêtée pour burn-out il y a environ 2 mois. En effet, pendant ces 2 ans et demi, elle a été pressurisée, exploitée à raison d'une moyenne de 100 heures par semaine sur la dernière année d'exercice. Et elle a dû affronter toutes les crises qu'on peut entendre dans l'hôpital public aujourd'hui, à savoir déshumanisation des soins, déshumanisation des pratiques, dû majoritairement à des manques de moyens criants et des sous-effectifs vraiment récurrents dans les services.
Merci Pierre pour cette question, ce témoignage. Agnès Buzyn.
Alors, il y a le sujet de la qualité de vie des soignants à l'hôpital aujourd'hui, qui est d'une part traité pour tous les étudiants internes en médecine avec des mesures qui ont été prises à la suite d'un rapport. Alors, je ne sais pas si votre compagne était interne ou si elle était déjà médecin senior installée. Ensuite, il y a des lois. Aujourd'hui, à l'hôpital public, on doit récupérer de ses gardes, on n'a pas le droit de travailler. Il y a des règlements européens qui sont appliqués en France sur la durée de travail, et donc on ne peut pas dépasser les 48 heures. Donc à un moment, elle a aussi le droit de se retourner contre son employeur. Et enfin, sur l'hôpital, nous avons fait le constat aujourd'hui du dysfonctionnement qui ne date pas d'hier. Ça n'est pas l'arrivée de ce gouvernement au pouvoir qui crée aujourd'hui les dysfonctionnements hospitaliers. Soyons clairs, la dégradation, elle est continue depuis 20 ans. Et donc nous avons décidé de prendre le taureau par les de faire une grande réforme de structure de notre système de santé pour rééquilibrer ce qui pèse sur l'hôpital et ce qui pèse sur le secteur de ville, pour mieux organiser les soins et mieux établir les responsabilités entre les différentes professions de santé. Aujourd'hui, tout pèse beaucoup et tout repose beaucoup sur les médecins, notamment les médecins généralistes. Il y a d'autres professionnels de santé qui peuvent intervenir, et donc cette transformation sera annoncée par le président de la République au mois de juin, et ça concernera évidemment la façon de travailler et la gestion des ressources humaines dans l'hôpital.
Agnès Buzyn, merci, ministre des Solidarités et de la Santé. Vous étiez au micro de France Inter.